Pierre, je suis ingénieur de l'EPFL, diplômé en nanotechnologie et en management d'entrepreneuriat. Et il y a 3 ans, un petit peu plus, avec mon meilleur pote Guillaume, du coup, on a créé une société dans le domaine de l'horlogerie. Et c'est à ça que j'ai consacré la grande partie de mon temps ces dernières années, c'est-à-dire à concevoir une marque de montre dans laquelle on joue avec des technologies d'avant-garde à la frontière entre la recherche fondamentale, je dirais, et l'art, plus particulièrement l'art horloger.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé ?
Pas du tout.
Non. Et comment vous êtes arrivé à l'ingénierie déjà ?
Alors à l'ingénierie, assez...
Est-ce que vous auriez pu devenir artiste ?
Je ne sais pas si j'aurais pu, parce que ma mère est pianiste, et donc du coup elle m'a toujours un peu poussé dans la direction de m'essayer aux arts, notamment au piano, à la guitare, au violon. Mais je crois que je n'ai pas été aussi combatif qu'elle, qui elle avait un doctorat en musicologie, en musique de chambre en fait, en piano. Et voilà, j'ai essayé chacun de ces instruments-là. J'ai bien aimé, mais je n'ai pas autant accroché qu'elle. Et puis quand on voit qu'on a une virtuose dans la famille, bah on s'incline vite face à la supériorité artistique. Du coup, je me suis dit, OK, ça, c'est pas mon domaine. Par contre, du coup, mon père était dans l'informatique et j'avais aussi ce côté technique qui était chez moi et qui m'intéressait depuis que j'étais petit. Et il m'a fallu un petit moment pour le comprendre, mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que je voyais un lien entre la science et l'art dans l'horlogerie.
Mais vous avez quand même commencé par étudier la technique.
Ouais,
et c'est la technique qui vous a éveillé à l'art, ou comment ça s'est passé? Ou est-ce que c'est vraiment un tréfonds que vous sentiez en vous?
Alors, disons que c'est... est-ce que c'est la technique qui m'a éveillé à l'art? Non, la physique, elle m'a toujours intéressé, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Particulièrement la physique autour des réacteurs nucléaires, elle m'intéressait beaucoup.
Donc là, on est bien loin de l'horlogerie.
Ouais, là, on est vachement loin de l'horlogerie. Et typiquement, en fait, tout ce qui était phénomène physique original, je pense à la fusion nucléaire, je pense que c'est le premier phénomène pour lequel j'ai eu de la fascination. Ça m'attirait. J'aimais bien le fait de voir des comportements de la matière qui étaient originaux et qui finalement aboutissait à quelque chose d'incroyable qui peut changer le quotidien des gens. Et c'est peut-être là où l'horlogerie, c'était pas apparu comme une évidence pour moi au préalable, c'est que ça sert à rien finalement l'horlogerie. Par contre, c'est beau.
Et est-ce que c'est justement cette sensation de découvrir le beau qui vous a amené à l'art?
Ouais,
c'est-à-dire que dans la science et la technologie, vous voyez des émergences de choses qui étaient belles.
Exactement, ouais. C'est les phénomènes physiques auxquels on a pensé au tout départ de notre projet, avec mon associé Guillaume, c'était des éclairs, des aurores boréales, des flammes. On rêvait de mettre ça dans des montres, et c'est là où on a commencé à se dire, OK, en fait, ça peut être vachement intéressant, l'horlogerie. Puis finalement, en fait, en l'abordant sous l'angle de la physique, puisqu'on était deux passionnés de physique, on a commencé à se renseigner sur ce que c'était vraiment l'horlogerie, et là, on a découvert en fait tout le savoir-faire ancestral qu'il y a autour de cet art, et toute la...
Et donc vous avez voulu vous appuyer sur une tradition, parce que vous auriez pu choisir, par exemple, l'art pictural, vous auriez pu choisir de faire des installations.
Alors, on aurait pu s'appuyer dessus. Néanmoins, on a essayé, en fait, de s'en éloigner dès le départ. C'est-à-dire qu'on a rêvé la montre sur laquelle on a commencé à bosser il y a 3 ans et demi, exactement comme elle est aujourd'hui, finalement, en l'adaptant un petit peu à ce qu'on a pu voir de systèmes traditionnels, particulièrement pour l'autonomie. En fait, la montre qu'on conçoit, du coup, elle utilise des fluides pour afficher l'heure. Et à l'arrière, on a un mouvement automatique qui permet de générer l'énergie pour déplacer ces fluides. Sachant que ces fluides, on peut les sculpter en 3 dimensions, donc à l'intérieur d'un demi-dôme en saphir, dans lequel on a une émulsion de plusieurs liquides. Mais le mouvement, ce qui va générer l'énergie pour cette montre, lui, il est vraiment à contre-courant de ce qui se fait dans l'horlogerie traditionnelle. On ne se base pas sur de la mécanique, on est plus sur de l'électromagnétisme.
Mais l'énergie de base, c'est quoi?
L'énergie de base, alors c'est de
l'énergie. C'est le mouvement, c'est une pile, c'est quoi?
C'est le mouvement. Alors, l'énergie de base qui donne l'énergie à la montre, c'est le mouvement du poignet. Après, on a effectivement un système d'accumulateur qu'on veut distinguer d'une pile pour avoir en fait quelque chose qui est le plus stable possible dans le temps.
Et c'est un accumulateur qui est électrique?
Exactement, ouais.
D'accord. Donc vous produisez de l'électricité, vous la stockez et ensuite vous l'utilisez pour la...
C'est ça. C'est ça. Et le tout, en fait, c'est d'avoir en fait un système qui va être le plus durable possible dans le temps. C'est ce à quoi on s'efforce de travailler depuis ces années. C'est de faire en sorte que chacun des composants ressemble à de la joaillerie. On veut faire en sorte que les gens retrouvent le même niveau d'attention aux détails dans notre montre que dans une montre mécanique, mais pour autant en utilisant d'autres sciences. Et l'idée dans cette direction-là, c'est un peu de redonner leur lettre de noblesse à des sciences comme l'électronique, comme la chimie, qui ont une esthétique qui est extraordinaire, mais qui demande à être domptée de manière assez fastidieuse d'un point de vue recherche pour aboutir à quelque chose. Et voilà, c'est...
Mais est-ce que l'on peut dire que si vous n'aviez pas suivi un cursus d'ingénieur, vous n'auriez pas pu concevoir cette montre?
Absolument pas.
D'accord. Donc
Absolument pas.
c'est vraiment, c'était la voie royale pour arriver à cette dimension.
Ouais, voie royale, et puis je pense, dans un sens,
Ou une
seule
voie
voie
d'éveil.
aussi. Seule voie possible, parce que dans un sens, Alors, ça dépend comment on regarde les choses. C'était la seule voie technique pour y arriver, de faire le cursus qu'on a fait avec mon associé Guillaume, parce qu'on a fait des nanotechnologies, donc du coup on voyait très bien comment fonctionnait l'électronique derrière les systèmes qu'on devait créer, la science des matériaux qui permet de réfléchir à qu'est-ce qui va faire en sorte que le système est durable, la chimie pour faire en sorte qu'on passe des tests de vieillissement accéléré sur tous les composants, qu'on puisse choisir la particularité d'une molécule avec l'autre de manière harmonieuse. Et tous ces systèmes-là, il fallait les comprendre. Après, c'était, je pense, aussi la seule voie d'éveil dans notre cas où on était plus des passionnés de science et l'horlogerie, je la
Ah, c'était
regardais
un moyen
pas
d'expression,
4
voilà.
ans avant. Donc, ouais.
C'était un moyen d'expression pour vous.
Exactement.
C'était une façon de visualiser finalement des phénomènes que vous aviez trouvé beaux et intéressants.
Exactement, ouais.
Et comment ça a été perçu par le milieu horloger? Parce qu'en fait, le milieu horloger est quand même très regardant par rapport à ce que vous allez rajouter à la montre. C'est-à-dire qu'elle ne veut, par exemple, tout ce qui est complication ne veut pas avoir d'électronique, ou finalement, je me pose même des questions par rapport à la chimie, par rapport à tous ces systèmes que vous avez intégrés.
Effectivement, alors c'est une super bonne question. On se l'est posé pendant longtemps et disons, pour lancer notre projet, on a voulu s'appuyer de différents leaders dans le domaine horloger. Donc on les a rencontrés en fait tout
Et il n'y
simplement
avait pas de
les uns après
réticence
les
par
autres.
rapport à l'intégration de ces différentes sciences.
En fait, c'était pas vraiment une réticence, je pense, par rapport à leur intégration, mais plus est-ce que ce qu'on voulait fabriquer c'était possible? Et je pense que de la part de techniciens qui ne sont pas exactement dans notre domaine, et surtout qu'en plus on ne s'adressait pas toujours aux techniciens, mais plutôt aux directeurs des marques, eh ben, on s'est rendu compte que ce qu'on présentait, qui pour nous semblait très accessible techniquement de par notre cursus, et réaliste, eh ben, ne l'était pas du tout en fait pour les interlocuteurs qu'on avait, et on voyait le gap entre la faisabilité technique qu'on imaginait et ce qui était perçu en face. Et c'est là où en fait on a compris que notre seule chance de se développer, c'était de manière autonome ou en prenant des investisseurs, mais absolument pas en passant par des sociétés horlogères existantes, puisque je pense que leur façon d'aborder la recherche et développement de manière générale est beaucoup plus orientée vers le fait de travailler des systèmes où il y a plus de sûreté dès le départ. C'est-à-dire qu'on va inventer quelque chose de mécanique, mais on est entouré d'experts en mécanique, et on a toujours inventé des choses en mécanique, si je me mets à leur place. Donc on sait que ça va aboutir. Et là, on arrivait avec beaucoup de sciences différentes. Il y avait ce côté de, OK, mais nous, on n'est pas experts dans cette partie-là de la chimie des particules, ni dans cette partie-là de certains systèmes de traitement de surface. Et je pense que ça pouvait créer des réticences initialement.
Et donc, c'était purement des questionnements qui étaient liés à la technologie et absolument pas d'acceptation par le client.
Oui, alors effectivement, parce que la plupart des sociétés à qui on a parlé nous ont accueillis vraiment à bras ouverts et j'étais assez émerveillé de
De
la
l'ouverture.
gentillesse et de la sympathie de tous les entrepreneurs qu'on a pu rencontrer dans ce domaine qui vraiment à chaque fois nous ont conseillés, ont été. Enfin, ouais, nous ont conseillé tout simplement, nous ont permis de mieux comprendre le marché. Pour nous, ça a été super riche de rencontrer toutes ces personnes en si peu de temps. Et on a vu pour plusieurs un intérêt technique qui était vraiment là. Certaines personnes, je vais peut-être pas les citer, je sais pas si c'est tout à propos, mais certains me disaient qu'ils rêvaient de mettre ça dans leur collection, d'autres me disaient qu'ils voyaient qu'on avait un terrain de jeu qui était infini. Et je pense que vraiment la principale barrière, et je les comprends en fait, elle était technique pour eux. Et aujourd'hui, on est très content parce qu'on voit qu'en fait, on a réussi à dépasser les grosses barrières techniques qui nous inquiétaient à l'époque. Donc voilà, maintenant, on avance beaucoup plus sereinement qu'avant.
Et qu'est-ce qui vous a amené à postuler pour le Challenge Quartz ? Ou peut-être rappelez-nous ce qu'est le Challenge Quartz.
Alors le Challenge Quartz, c'est un challenge qui vient... mettre différents entrepreneurs les uns en face des autres avec un projet à l'interface entre l'art et la science. Et donc nous, on a découvert ce challenge il y a 2 ans. Je pense que comme tout entrepreneur qui essaie de lancer une société dans le canton de Vaud, en sondant les différents concours qui existaient, il apparaissait très clairement au travers de la Fondation Inartis, qui a une grosse réputation ici, où on voit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en viennent et qui sont incubés. Et donc du coup, en entendant parler de ce concours-là, tout simplement, on s'est posé des questions sur qu'est-ce qui était attendu du concours. On a vu que c'était principalement avoir une innovation entre l'art et la science. Et ensuite, on a regardé, bien sûr, le degré d'avancement. On a regardé ce que nos compétiteurs, les autres startups qui allaient participer, proposait comme technologie, parce qu'on veut toujours essayer de pas faire en sorte d'être en face de sociétés qui sont en série B ou C quand on participe à des concours comme ça. Et on a vu que c'était exactement notre créneau, donc on a participé. On voyait qu'il y avait un bel accompagnement qui pouvait être proposé au travers de la fondation. Et puis il y a un cash prize qui va aussi avec la compétition qui nous permettait de travailler sur notre développement. Donc on a participé en se disant il faut qu'on gagne pour développer nos
prototypes. Et comment vous l'avez vécu ?
Super bien. En soi, on a eu c'est un challenge qui a duré à peu près on a candidaté si je me souviens bien en décembre 2023. Alors la première phase, il s'agissait de faire un pitch devant un jury qui était composé de différents entrepreneurs, techniciens et artistes de la scène du canton de Vaud et au-delà, je dirais. Ça a commencé par un pitch. Ce pitch, du coup, durait 5 ou 10 minutes, je sais plus exactement.
Et comment vous l'avez perçu, ce pitch ? Est-ce que vous vous sentiez jugé ? Est-ce que vous vous sentiez soutenu ? Est-ce que vous vous sentiez porté ? Ça vous a, je ne sais pas, démontré d'autres possibilités de développement par rapport à votre projet ? Je parle simplement du pitch, je ne pense pas de l'accompagnement qui a suivi.
Ok, ouais. Alors le pitch, j'étais vraiment à l'aise ce jour-là. Je ne sais pas ce qui a fait ça. Sûrement que c'était une atmosphère assez intime en soi. On était avec 10 jurys à peu près. Et dans la fondation Inartis qui est chaleureuse en termes de locaux, et donc du coup en comparaison de pitch que j'avais pu faire devant parfois des centaines de personnes où c'est un peu plus anxiogène, il y a une caméra qui nous braque, il y a une croix au sol, on sait qu'on a 90 secondes pour parler, faut faire attention à ses respirations, on n'a pas envie d'oublier son texte. Là pour le coup, par contraste en fait, on se sent bien, on voit que les gens sont des experts du domaine qui vont nous donner des conseils à la fin, et je pense que j'étais vraiment détendu et c'était appréciable comme moment.
Là, vous allez faire partie du jury. Qu'est-ce que vous changeriez dans le cadre du jury ?
Dans le cadre du jury, franchement, pas grand-chose. En soi, je pense que la richesse de ce jury-là, c'est justement la diversité des expériences qu'on trouve chez les personnes qui en font partie. Donc moi, je suis content de pouvoir y contribuer en apportant, je pense, le regard très, très récent en fait, que j'ai par rapport à peut-être d'autres entrepreneurs qui ont plus de vécu entrepreneurial, donc qui sont peut-être plus éloignés de certains soucis qu'on a quand on démarre. Et donc du coup, avec seulement 3 ans, j'ai l'impression que c'est très long, mais à la fois, je pense que par rapport à certains membres du jury qui sont bien sûr plus âgés, ça crée un autre regard, et je pense que je suis content de pouvoir aussi apporter un point de vue très... très opérationnel, court terme, de connaissance de l'écosystème, qui est proche du canton de Vaud et de la fondation Inartis aux participants du concours.
Ça, c'était la première étape. Donc, vous avez été sélectionné parmi une centaine de projets. Ouais. Comment s'est passée la deuxième étape ?
La deuxième étape, là pour le coup, j'étais assez bluffé de la mise en scène. Cette deuxième étape, elle se déroulait à l'écale.
Alors avant, vous avez dû travailler tout de même.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que vous avez dû faire un prototypage.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période ?
Alors, en fait, pendant cette deuxième période, la Fondation Inartis met à disposition 5000 francs pour faire du prototypage. Et nous, on avait déjà la plupart des éléments de notre système. On avait déjà la plupart des éléments de notre système qui étaient prêts à être assemblés dans une horloge, qui était le premier prototype vraiment de produit fini qu'on a réalisé. Et effectivement, avant le concours, on n'était pas forcément dans la direction de réaliser ce prototype, mais étant donné qu'on avait la nécessité au travers du concours d'apporter une étape très rapide pour se distinguer d'autres candidats, on s'est dit, ok, ils vont nous juger sur quoi ? Sur un produit qui peut être mis sur le marché. Donc si on le présente au travers de slides, au travers d'aspects, comment dire, de plusieurs proof of concept éparpillés, on sait que ça a moins d'impact. Le plus intéressant, ce serait de venir avec quelque chose de concret et de très ressemblant à ce qu'on pourrait se mettre à commercialiser par la suite.
Et c'était l'horloge.
Et c'était une horloge, voilà.
Alors, parlez-nous de cette horloge.
Donc, cette horloge, globalement, elle est fabriquée à partir de 18 différentes capsules qui sont soufflées en verre par un artisan qui, lui, se trouve pas très loin de Aigle. Donc, j'étais allé chercher à l'autre bout du lac une semaine avant, dans l'urgence, ces capsules en verre qui nous avaient soufflées. Et à l'intérieur, du coup, donc on a une émulsion de fluide à base de nanoparticules magnétiques qu'on a conçues nous-mêmes, qui sont mis tous en place dans une chimie bien particulière qui prend beaucoup de temps à fiabiliser, ce qui aujourd'hui est fait. Donc on sait que c'est un système qui peut durer sur des dizaines et des dizaines d'années sans dégradation. On fait des tests de vieillissement accéléré assez poussés pour ça. Et toutes ces capsules-là sont mises les unes à côté des autres dans une sorte de forme de soleil à l'intérieur d'un cadre qui, lui, est composé de différents matériaux. Donc pour le concours, on l'avait fait avec du chêne, on avait travaillé le bois nous-mêmes, on l'avait découpé pour que ça ait la forme qui nous plaisait. Et on n'avait pas énormément bossé le design à ce moment-là, c'est-à-dire que ça restait un proto, mais on avait la volonté d'aller plus loin, de travailler avec un designer qui vienne apporter sa touche artistique par-dessus le côté technique qu'on a beaucoup bossé. Je suis un peu en train de me perdre, j'ai l'impression, mais globalement, ce qu'on a fabriqué pour cette étape-là du concours, ouais, c'est une horloge qui est carrée avec 18 capsules.
Et qu'est-ce que devenue cette horloge ?
Alors, celle-ci, elle est toujours dans notre bureau. On l'a pas encore amenée.
Mais c'était un prototype pour en faire quelque chose de plus petit, ou c'était simplement un démonstrateur que vous avez utilisé ?
Alors, en fait, c'est le premier produit qu'on veut sortir. Il est destiné.
Donc, il sera commercial.
Exactement. Il est destiné à aller dans des galeries d'art. Mmh. La première version qu'on a aujourd'hui et qu'on a présentée au concours, bon, ça s'entendait pas trop dans le concours parce qu'il y avait une centaine de personnes dans la salle et tout le monde parlait en même temps quand les gens s'approchaient du prototype, mais les moteurs frottaient un petit peu contre une plaque à l'intérieur, du coup ça fait un petit bruit spécial, on a l'impression qu'on est dans l'Odyssée de l'espace avec Stanley Kubrick juste derrière et c'est d'ailleurs des remarques qu'on a eues de quelques collectionneurs qui ont regardé la pièce, qui nous ont dit que au contraire, ils trouvaient ça intéressant que ça frotte derrière. Mais malheureusement, on ne peut pas leur vendre en l'état parce que sinon, on leur vend un produit qui n'est pas optimal techniquement. On pourrait ajouter des bruits artificiels derrière, mais on ne veut pas que ça frotte dedans. Voilà. Du coup, ce produit-là, cette création-là, elle est destinée à rester dans nos locaux parce qu'elle n'est pas destinée à la vente. Mais on est en train d'itérer dessus pour avoir quelque chose qui soit bien fini en termes d'électronique et qui ne fasse pas de bruit.
Et donc vous êtes allé jusqu'à Aigle, qui n'est pas si loin tout de même.
Oui.
Vous avez récupéré ces capsules, vous les avez intégrées, vous les avez montées, vous en avez fait un démonstrateur et vous arrivez à la finale.
C'est ça.
Comment ça se passe ?
La finale se passe super bien. Il y a ce cadre très agréable d'être dans l'écale où on a un vrai écosystème artistique et on le sent par la mise en scène qui est possible de mettre là-bas. Donc on est dans un très bel auditoire Il y a des spotlights.
C'était le studio de TV. Hein. C'était le studio de TV qui a été remodelé pour faire la finale.
D'accord, ok. Ah, je savais pas que c'était un studio de TV. Bah, en tout cas, très agréable d'évoluer dans cet espace-là. À la fois pour les photos, on voyait qu'il y avait une patte incroyable de la photographe qui était sur place. Pour les effets de lumière, bah, ça collait parfaitement avec notre univers artistique, même pour les moments qui n'étaient pas dédiés à nous, je trouve, dans la compétition. Ces effets de lumière qu'on a retrouvés tout au long de la cérémonie, ils étaient en fait très proches de ce qu'on s'imaginait faire en termes d'expérience pour mettre en avant nos créations. Donc on était contents d'être là-bas, on voyait qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait.
Et vous avez gagné.
Oui, c'est ça.
Et comment ça s'est passé? Comment vous l'avez perçu?
Bah, toujours très bien, hein, quand on gagne ces concours-là.
Vous avez senti une tension parce que les autres projets étaient différents, mais d'un point de vue qualitatif
Ah ouais, alors bien sûr, on a ressenti une tension. Il y avait plein de projets excellents. Je pense un qui nous a fait particulièrement peur, c'était le... j'ai pas leur nom exactement, mais c'est un système qui génère du son de manière locale.
De façon très... localisé, oui.
Exactement. Mmh. Et ça, pour le coup, on était assez impressionnés. On savait que c'était l'ancien vice-président de Logitech, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas un ancien membre de la direction qui était aux manettes. Donc nous,
ils avaient fait une démonstration sur place.
Ouais,
on était tous bluffés parce qu'en fait, on se retrouvait dans l'assemblée et on était les seuls à entendre un certain son.
Ouais. Donc projet extraordinaire. Et étant donné que nous, on était entrepreneur pour la première fois, on n'est jamais passé par le monde du travail, enfin par des petits jobs avant ça, mais on voit des gens qui ont beaucoup d'expérience professionnelle qui arrivent avec des produits très très complexes comme celui-ci. Bon, je dis pas que le nôtre est pas complexe, mais c'est impressionnant à voir et du coup oui, ça nous a fait peur. On participe quand même.
Lors de la soirée, il y avait à la fois le monde politique, il y avait le monde économique, il y avait le monde industriel. Est-ce que vous avez à cette occasion déjà noué des contacts qui vous ont permis ensuite de vous projeter par rapport à votre projet?
Oui, tout à fait. Notamment, il y a la Scale Up Factory qui nous accompagne depuis ce temps-là, qui est gérée par un entrepreneur extraordinaire, Vincent Favra, qui lui-même est actif dans le monde de l'art avec différentes sociétés, et c'est une vraie source d'inspiration pour nous. Il est de conseils, de très bons conseils. On se parle régulièrement et on est très content de l'avoir auprès de nous. C'est un des entrepreneurs qu'on a rencontré jusqu'ici qui s'est le plus investi à écouter nos problématiques, à venir toujours avec beaucoup de finesse dans les suggestions qu'il nous pose. Et c'était une chance incroyable de le rencontrer là-bas. Donc,
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on devrait continuer à soutenir cette interface entre l'art et la technologie? Vous êtes un exemple parfait. Vous avez de la technologie, vous avez une vision artistique et vous avez un produit.
Ouais.
Pourquoi est-ce qu'on doit soutenir ce type de...
Bonne question. Bonne question, parce que moi j'essaie de convaincre les gens de ça toute la journée, et puis au fond, quel est le fond de cette question-là? Je dirais que c'est...
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un terreau d'innovation que l'on n'a pas exploité et que l'on doit exploiter de façon beaucoup plus forte? Vous parlez avec soit des collègues, aujourd'hui vous travaillez dans le milieu de l'horlogerie, vous voyez cette innovation. Est-ce que cette innovation, vous la voyez cantonné dans le cadre de grands groupes? Est-ce que vous voyez que des personnes comme vous, qui sont venues de milieux qui ne les prédestinaient pas, justement, rentrer dans le domaine d'interface entre l'art et la technologie, peuvent être favorisées?
Alors, en fait, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que un concours comme celui-ci, indépendamment de sa thématique, il aide des entrepreneurs à se lancer. Et tout simplement, l'entrepreneuriat, c'est un monde de guerriers, donc avoir des supports dans ce monde-là, c'est la seule chose qui fait qu'on...
Et pour vous, ce qui était le plus important, c'était quoi? C'était le réseau, c'était les individus, c'était l'aide technologique, c'était la visibilité que vous en avez acquis?
Tous ces points, vraiment, et il y a aussi un côté de stimulation, où on sait que d'un coup, on a des échéances, et... Le fait d'avoir un regard extérieur de beaucoup d'experts du domaine, ça nous force à nous focaliser uniquement sur là où on doit avancer le plus. Et après, si je reviens vraiment sur les thématiques de pourquoi un concours sur l'art et la science, je pense que l'art, il est essentiel dans nos sociétés. C'est ce qui fait qu'on...
Pourquoi est-ce qu'il est essentiel? Est-ce que vous pensez à la santé mentale? Est-ce que vous pensez
ouais. Ouais, carrément à la santé mentale, mais même d'un côté philosophique.
Ou est-ce que c'est un plaisir, simplement?
Ouais, c'est ce qui habille les concepts de notre quotidien. Pour l'art horloger, moi, j'y vois le fait de prendre une notion qui de base n'existe pas vraiment. Le temps, c'est une unité de mesure. C'est un concept physique, mais dès lors qu'on parle de secondes, de minutes, d'heures, ça semble si palpable, et pourtant c'est juste une unité, donc c'est quelque chose.
Et d'ailleurs, sur votre montre, on arrive à lire l'heure.
Alors, on nous a beaucoup posé cette question, et c'est pas le but de donner l'heure. Je dirais pas que c'est futile. On est très content de décorer l'heure avec notre science, mais c'est pas notre but premier. On cherche à. Enfin, si. Je vais reprendre. C'est notre but premier d'habiller le concept de temps avec une esthétique artistique. Mais c'est vraiment pas notre but de donner l'heure à la seconde près ou à la minute près. Donc, notre montre a l'information de l'heure exacte. Elle se dérègle quasiment pas, vu qu'on fonctionne avec un quartz haute précision. Mais pour autant, on va avoir un système qui est très. Qui est très flou dans son affichage de l'heure, c'est-à-dire que on va peut-être douter d'être à 5 minutes près dans cet affichage-là. Peut-être qu'il sera 10h05, peut-être qu'il sera 10h, mais par contre la montre, elle, sait exactement où on est. Donc il y a tout le temps à peu près ce delta, et c'est aussi une interprétation qu'on trouvait appréciable à garder, parce qu'on avait des solutions techniques pour l'éviter, mais on se disait, pourquoi pas apporter un peu de douceur. En contradiction avec, j'ai un ami cuisinier qui est aussi entrepreneur qui me disait que lui quand il est au boulot, il a sa montre, mais c'est pour chronométrer à la seconde près. Et en fait, quand il sort de ses cuisines, il a pas envie de voir l'heure à la seconde près. Et je pense que on peut tous avoir cette angoisse de, il faut choper un train, il faut arriver au bon rendez-vous à la bonne heure.
C'est peut-être pour ça que je reviens sur la notion de flou que vous exprimez. Est-ce que c'est pas finalement à l'image du temps? C'est-à-dire que le temps n'est que perçu. Ouais. Et donc la perception que vous pouvez en avoir, si vous êtes au travail, si vous êtes sous pression, si vous êtes simplement dans les loisirs, il est très différent.
Exactement. Et c'est une image que mon associé Guillaume aime beaucoup sur le temps perçu et le temps quantitatif. À jouer en fait de l'intensité des moments qu'on vit, on va avoir une représentation personnelle de celui-ci qui est différente, et en fait avoir un objet qui vient jouer sur cette interprétation-là, on trouvait ça très, très agréable, donc on est content de ne pas avoir une trotteuse qui vient donner de la précision dans tout ça.
Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à postuler pour le Challenge Quartz?
Hésiter...
Si la personne hésite, vous lui diriez « vas-y », vous lui diriez « c'est une opportunité », vous lui diriez « prépare-toi bien ».
Alors, sans hésiter, je lui dirais d'y aller, mais uniquement si son projet est pertinent avec ça, c'est-à-dire que il faut qu'il soit à un stade de développement où ça va lui apporter quelque chose, donc c'est-à-dire « bah, quoique ».
Ou peut-être, aussi... prenons une question différente. Ouais. Pour vous, qu'est-ce que c'est un bon projet pour qu'il soit soumis au quartz? C'est quoi les caractéristiques d'un bon projet?
Alors, avoir une dimension d'innovation technique, avoir une composante artistique et être un projet entrepreneurial. Pour moi, ça se résume à ça.
Un mot pour ceux qui envisagent de postuler? Comment est-ce que vous les encourageriez? Qu'est-ce que vous leur direz?
La Fondation Inartis, c'est une super fondation. Vous êtes en très bonne main avec Benoît. Et il y a un terreau extrêmement fertile pour l'innovation, pour la science et pour l'art à la Fondation. Et il faut en profiter.
Comment vous projetez maintenant vous-même avec votre projet?
De plus en plus avec...
Votre rêve, c'est quoi?
Notre rêve... Moi, je rêve un peu d'une marque horlogère qui serait du Salvador Dali.
Mais c'est plutôt Henry Wilson, ou c'est plutôt de la production de masse?
Alors, on va être sur des modèles très limités, tout simplement parce qu'on veut conserver une grande qualité dans nos produits, et on s'est rendu compte que les efforts d'industrialisation qui incombent à une création de masse, ils sont monumentaux, et on a envie d'avancer dans cette direction à la fois de recherche technique et à la fois de recherche artistique. Donc plus on peut travailler à itérer sur différents concepts spectaculaires, plus on est heureux, et ça c'est une voie différente de l'industrialisation de masse. Après on a aussi des tonnes d'idées de conception qu'on peut proposer à d'autres industriels, industriels c'est pas le bon terme, mais d'autres fabricants de montres qui voudraient créer avec nous. Dans ce sens-là, on se voit aussi comme un laboratoire de développement, donc on a déjà commencé des petits projets dans le biomédical, et on se voit un peu à la croisée de deux mondes, un monde où il y a de l'horlogerie avec des physiques exotiques et spectaculaires, et de l'autre, un laboratoire qui fait plus de la recherche appliquée, mais pour lequel, en fait, toutes les sciences qu'on va développer pour nos montres servent de vitrine à montrer qu'on a une expertise technique dans ces domaines.
Et de façon plus personnelle, quelles seraient les personnes que vous aimeriez voir porter votre montre?
Ouh, wow.
Si vous deviez avoir une égérie, qui choisiriez-vous?
Ah, alors, super bonne question. Très, très bonne question. Je pense que j'ai en fait...
Ah. Est-ce que c'est plutôt des gens, c'est un Elon Musk? Ou est-ce que c'est plutôt une artiste? Ou...
Alors... Très, très bonne question. Ah, alors là, ça me prend un certain temps, parce qu'un objet qu'on a autant rêvé, en fait...
Alors, on ne va pas répondre à cette question.
Okay,
par contre, je vais me dire, comment est-ce qu'on peut suivre vos travaux?
Alors, nos travaux...
Comment est-ce qu'on pourra avoir cette réponse?
Tout simplement, on a un site web, actuellement.
Vous allez nous redonner la trace?
Ouais, timedesigners.io. On communique occasionnellement sur notre page LinkedIn et sur Instagram. Pour l'instant, on est discret parce qu'on avance au rythme que prend la science à être développée. C'est sur ces canaux-là qu'on verra les avancées de notre projet dans les mois à venir et les années à venir.
Pour les personnes qui auraient été séduites par votre projet, ils peuvent vous contacter comment?
Alors sur le site web, il y a tous nos contacts, sur LinkedIn, et voilà.
Et on se réjouit de découvrir les prochaines étapes.
Avec
Merci
plaisir.
Beaucoup.
Merci Benoît.